France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
La France est le premier pays d'Europe pour son stock de bois sur pied. Contrairement à des idées reçues, les forêts françaises sont plutôt en retrait en ce qui concerne la récolte par rapport à la production.
Aujourd'hui, on va couper des bois plus jeunes. On va dire qu'avant Martin, on était plutôt sur des révolutions à plus de 50 ans. 10 ans après, on était rapproché à des révolutions de 40-45 ans. Et aujourd'hui, on va plutôt être sur des rotations de 30-35 ans.
Ce qu'on veut dans nos forêts, c'est préserver les différentes fonctions de la forêt. Il n'y a pas que la fonction production. La fonction première, c'est améliorer la biodiversité.
En forêt, pour optimiser les choses, souvent, il suffit de rien faire.
Elle est assez discrète au salon de l'agriculture, éclipsée par les vaches et les céréales. Pourtant, la sylviculture est un secteur agricole à part entière. Elle permet de produire du bois d'œuvre qui servira en menuiserie, charpente ou ameublement, de la pâte à papier et bien sûr du bois de chauffage qui constitue aujourd'hui la première énergie renouvelable. La mécanisation a permis d'abattre plus d'arbres et plus vite en réduisant les coûts, mais alors que le climat se dérègle, alors que les oiseaux et les insectes disparaissent, doit-on exploiter encore davantage les forêts ou privilégier la protection de la diversité ? Aujourd'hui, les forêts couvrent près de 17 millions d'hectares, soit 31% du territoire métropolitain. Elles sont majoritairement peuplées de feuillus, chênes, hêtres, châtaigniers, merisiers. Mais la part des pins, exploitables plus rapidement, augmente année après année. L'avenir est-il aux forêts spécialisées pour répondre à la demande ? Faut-il au contraire diversifier les essences ? Peut-on exploiter raisonnablement nos forêts et valoriser notre patrimoine forestier en pensant aux générations futures ? Car le temps des forêts n'est pas celui des champs de blé et les décisions d'aujourd'hui auront des conséquences à très long terme. La forêt, une ressource à sauvegarder, c'est un reportage signé Anne Lorchouin. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Jean-Luc Perron, économiste forestier, directeur du groupement d'intérêt public Écofort, et Philippe Berger, secrétaire national du SNUPFEN Solidaire, principal syndicat de l'Office national des forêts. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Anne-Laure Chouin est avec nous. Anne-Laure, avant d'écouter votre reportage, il faut peut-être préciser qu'en France, il y a un quart de forêts publiques. Le reste appartient à des propriétaires privés. Vous êtes donc allée dans des forêts privées?
Oui, je suis allée voir dans différentes régions, les différentes façons de cultiver les arbres, du sud-ouest au nord-est de la France, dans les Landes de Gascogne d'abord, où la forêt s'apparente plutôt à des champs d'arbres, en Bourgogne ensuite, où les résineux gagnent sur les feuillus, enfin en Alsace, dans le magnifique massif des Vosges du Nord. Dans ces trois forêts, plusieurs sylvicultures cohabitent. Comment se traduisent-elles sur le terrain? Quelle est leur philosophie? C'est ce qu'on va tenter de comprendre. Et on commence dans la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale, les Landes, où c'est en ce moment la saison des éclaircies. On coupe les arbres les plus faibles pour laisser se développer les plus beaux.
Et ces travaux se font à l'aide d'engins assez impressionnants qu'on appelle des abatteuses et qu'on va entendre tout de suite.
Il a pris l'arbre, il l'a coupé, il a même arraché là, tellement il a. Après, il va le bastiller. Voilà, il débite en rondelle de 2 mètres. Et le débardeur va passer dans la même ligne où la machine à battage est passée pour récupérer les tables qui sont à côté dans cette ligne.
Et la cime est mise à côté.
Elle est mise à côté parce qu'on va la récupérer pour faire des plaquettes énergie. Alors, le peuplement, il reste fragile pendant 6 mois, 1 an après. On casse ses racines. Et après l'éclaircie, on déstabilise toujours un peu, il faut le savoir.
La forêt des Landes, c'est 1 million d'hectares de pins maritimes sur 3 départements, Landes, Gironde et Lot-et-Garonne. L'essentiel a été planté par Napoléon III, qui souhaitait assainir cette région de marécages. Depuis, ces immenses et monotones alignements de pins sont exploités principalement pour des scieries et des papeteries locales. Une exploitation gérée le plus souvent par la plus grosse coopérative forestière de France, Alliance Bois Forêt. Frédéric Labie gère l'agence de Castets, près de la côte landaise.
Alors en termes d'emploi, la filière bois et forêt liée au pain maritime, enfin, l'ancienne région Aquitaine, c'était à peu près 35 000 emplois. Donc il y a une particularité, c'est que tout le bois est utilisé, que ce soit par des papetiers, panoteurs ou des scieries, voire la chimie qui aujourd'hui utilise cette essence aussi, que ce soit à partir des aiguilles ou de la résine qui était travaillée historiquement. Donc tout le bois est utilisé en grande majorité localement. très peu d'export. Les marchés à l'export, ils ont servi aux sylviculteurs à tenir les prix ou à évacuer des bois lors d'événements comme des tempêtes.
Donc il est bon pour quoi le pin maritime? Pour quel type d'usage?
Alors là aussi, l'utilisation a varié avec le temps. On va dire jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale, l'activité principale, c'était la résine, la gemme qui était récoltée. Ensuite, des papeteries se sont développées. Donc aujourd'hui, il est utilisé pour des pâtes à papier, pour la bioraffinerie. Ensuite, on l'utilise pour faire des panneaux de particules, des panneaux de déroulage. Et puis le sillage, qui reste une activité phare. Mais aujourd'hui, on a quelques difficultés de ressources. Parce qu'avec deux tempêtes en 10 ans, le stock sur pied a diminué de quasiment de moitié. On a du mal à mobiliser du bois parce qu'aujourd'hui, une partie de la ressource se retrouve sur des petites propriétés plus morcelées. Et c'est plus compliqué. Ce sont des sylviculteurs qui ne sont pas dans les circuits. C'est une gestion plus patrimoniale et c'est plus compliqué à mobiliser. D'accord. Mais la ressource existe.
Alors, concrètement, il faut combien de temps avant de pouvoir récolter du bois?
Alors, la révolution, on coupe des bois aujourd'hui, on va couper des bois plus jeunes pour faire...
Donc, une révolution, c'est...
C'est de la plantation jusqu'à la coupe définitive. On va dire qu'avant Martin, on était plutôt sur des révolutions à plus de 50 ans. Au moment de Claus, 10 ans après, on était rapproché à des révolutions de 40-45 ans.
Donc là, on parle du nom des tempêtes à chaque fois.
Voilà. Et oui, mais effectivement, ces tempêtes, on doit en tenir compte dans le conseil qu'on propose à un sylviculteur. Il faut diminuer les risques. Et aujourd'hui, on va plutôt être sur des rotations de 30-35 ans pour équilibrer les propriétés, faire rentrer de la trésorerie aussi, puis limiter les risques. Parce que malheureusement, on est dans des périodes avérées de dérèglement climatique.
Donc un arbre trop vieux, c'est plus risqué?
Si vous avez un capital risque, donc d'une part, aujourd'hui, après l'industrie manque de bois, donc quel est l'intérêt d'attendre? Il faut comme cette industrie l'aider, qu'elle soit là demain. Et c'est l'intérêt du sylviculteur. Si vous raccourcissez la révolution, votre taux d'interne rentabilité, il est que meilleur. Donc diminution du risque et meilleure rentabilité.
Il y a ici et là un petit peu des voix qui commencent à s'élever sur la façon dont est gérée la forêt, alors pas seulement landaise, mais de façon générale, avec justement ces rotations plus courtes qui, selon les uns, seraient moins bonnes pour la biodiversité, pour la qualité du bois, etc. etc. Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des oppositions qui se lèvent là ces dernières années, on va dire?
Écoutez, les bien-pensants, ils se trouvent dans les milieux urbains, mais on peut les trouver aussi à la campagne aujourd'hui. On ne peut pas les ignorer, mais en France, on a une propension à écouter les minorités. Donc il faut quand même regarder ce qui est fait par l'homme depuis des décennies, en termes de biodiversité, en termes de développement d'emploi. La forêt du Limousin est un exemple. On a boisé des terres qui n'étaient pas boisées, on a créé une richesse. Ça a permis à des industries de s'installer, des scieries, dans des petits villages où aujourd'hui il y a une activité, il n'y en avait plus il y a 30 ou 40 ans. Donc dans les Landes, c'est une culture dynamique, une sylviculture. Chaque coupe est reboisée aux environ 2 ans après la coupe. Il y a des gens qui gardent des bois plus vieux parce que c'est patrimonial. La tendance à les raccourcir à la révolution. On est très respectueux de l'environnement. La biodiversité, on n'a pas attendu à ce qu'elle soit intégrée dans les certifications pour les pratiquer. On l'a pratiquée déjà. Les maintiens des lisières feuillues, le maintien des ripisylves. Tout ça, c'était fait par l'homme. Les ripisylves, c'est les bordures feuillues le long des ruisseaux. Donc tout ça, c'était pris en compte par l'homme. Ici, en local, ça a été accentué par les certifications, notamment le PFC, mais on peut dire que l'homme était respectueux de l'environnement, de ses équilibres, parce qu'effectivement, il y a les facteurs abiotiques à prendre en compte, il y a les facteurs cynégétiques, parce que beaucoup de sylviculteurs sont des chasseurs aussi, et il faut réguler les populations de gibier pour permettre le développement des plantations.
Alors, paraît-il qu'il y a de plus en plus de sangliers?
Il y a le phénomène du sanglier qui se développe beaucoup, oui, qui peut poser problème. Les cervidés à une époque, ça a été réglé, parce que les chasseurs et sylviculteurs sont mis autour de la table, les plans de chasse ont été mis en place. Donc on voit qu'on peut trouver un consensus intéressant pour le sylviculteur, pour les gens qui utilisent la forêt, et tout en respectant l'environnement.
Cette sylviculture intensive est ultra majoritaire dans les Landes. Et pourtant, un peu plus au nord, en Gironde, à Ostens, une autre sylviculture est menée par Jacques Azra, expert forestier, membre de l'association de sylviculteurs ProSylva, qui prône la futaie irrégulière. Ce sont des forêts mélangées, où les arbres de différentes espèces ont des âges différents et sont donc récoltés au fur et à mesure, ce qui évite les coupes rases, ces coupes à blanc qui enlèvent au même moment tous les arbres d'une même parcelle. Jacques Azra.
Une coupe rase, ça a énormément d'effets néfastes. Par exemple, vous mettez le sol à nu, vous exposez la matière organique directement à la chaleur et à la lumière du soleil, ce qui a pour effet de la détruire en partie. Vous créez des tassements de sol, vous créez... c'est un carnage, si vous voulez. Donc nous, dans notre courant de pensée, on dit bah, il y a mieux à faire, il vaut mieux faire des éclaircies. Donc ici, si on prend ce chêne par exemple, Il a à peu près 28 ans, puisque quand moi je me suis installé il y a 30 ans, il n'y avait rien du tout. C'est des chênes qui sont arrivés tout seuls, sans doute grâce aux glands des grands chênes d'à côté, qui font peut-être 10 mètres cubes chacun et 25 mètres de haut. Ça montre que les jeunes ont la même capacité, probablement, de faire du volume. Sauf que ces jeunes, moi je les ai sélectionnés et je leur ai fait quelques petites interventions, notamment en élagage.
Donc élagage, on coupe les branches qui poussent sur le côté en gros, c'est ça?
Voilà, on coupe les branches de façon à avoir des fûts bien droits, comme le noir là qu'on a devant nous. Sur 6 mètres, il n'y a pas une seule branche. Ça veut dire que sur 6 mètres, vous avez du bois de première qualité. Et c'est des chênes qui poussent très vite, puisque je les mesure régulièrement. Je sais qu'ils s'accroissent en circonférence de 2 à 3 cm par an. Ce type de terrain, autour des maisons, autour des habitations, il y en a partout. Dans les Landes, il y en a partout. C'est des petites zones, mais petites, ça veut dire quand même 10 hectares, vous voyez, ou 5 hectares, 2 hectares, 15 hectares, à chaque fois. C'est-à-dire que c'est autant de surface qu'on pourrait utiliser pour faire une production de chêne qui peut être pure ou mélangée à du pain ou à mélanger à autre chose. Mais malheureusement, en général, c'est labouré et planté en pin, hélas. Alors d'un côté, c'est loin d'être l'optimum pour ce qui concerne la sylviculture et la production de bois, mais même pour le paysage et pour le sol. Vous voyez, à bien des égards, c'est une façon un peu court-termiste, oui, et puis une façon de baisser les bras parce qu'on ne cherche pas à optimiser les choses. Et c'est idiot parce qu'en forêt, pour optimiser les choses, souvent, il suffit de rien faire. Vous voyez, là, j'ai rien fait, j'ai juste coupé des arbres, ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai coupé des arbres, c'est-à-dire j'ai sélectionné, j'ai éclairci 3 fois en 28 ans et j'ai fait un peu d'élagage. C'est rien du tout, si vous voulez. J'ai pas passé des tracteurs, j'ai pas investi, j'ai pas fait de labour, tout ça, j'ai pas fait. C'est juste que la nature, elle fabrique des choses et c'est à nous de la conduire, de choisir le bon arbre, de couper celui qui gêne, etc. C'est tout bête. C'est de l'observation et du bon sens. N'importe qui peut le faire.
Est-ce que si on gère toutes les forêts, et notamment du massif landais, comme ça, ça suffit à fournir suffisamment de volume de bois pour les entreprises alentours, ou en tout cas pour le besoin qu'on en a aujourd'hui?
Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que on ne peut pas récolter plus que ce qui est produit. Et ce qui est produit, c'est déterminé, non pas par nous, mais par la station. C'est-à-dire la station, c'est la combinaison du climat et du sol. C'est ça qui détermine le volume de biomasse qui va être produit. Alors vous pouvez dire, comme on dit, comme on entend beaucoup, vous pouvez dire il faut récolter plus, il faut 20 millions de mètres cubes de plus en 2020, il faut 30 millions, il faut... Mais non, mais si vous prélevez plus que ce que la nature produit, vous allez réduire le capital sur pied. Avec cette politique-là, vous récolterez de moins en moins. Il faut comprendre que c'est la nature qui dicte, qu'on a des contraintes dont on ne peut pas s'abstraire. Si vous abandonnez un champ de blé, vous revenez 20 ans après, vous avez une forêt. Et si vous abandonnez une forêt, 20 ans après, vous avez une forêt aussi. C'est-à-dire que c'est toujours la forêt qui s'installe. On n'a pas besoin de la fabriquer nous-mêmes, ça se fait tout seul.
Autre région, autre forêt, nous partons dans le Morvan où le paysage forestier se compose de feuillus et de résineux, des plantations de pins Douglas notamment. Le Morvan, où pour la première fois en France, un groupe de citoyens, membres d'associations écologistes, ont formé un groupement, le Groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan, qui rachète des forêts pour ralentir la plantation de résineux. 17 forêts, soit 300 hectares, ont déjà été acquises par ce groupement. Jacques Gorlier, son co-gérant, et Christine Vanin.
Nous nous trouvons donc au cœur de la forêt de Montmain, donc cette forêt qui est à l'origine de la création du groupement. C'est une propriété de 270 hectares qui a été achetée donc il y a 15 ans, qui a fait l'objet d'un achat collectif entre la ville d'Autun, le Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne et le groupement forestier qui a acheté 28 hectares. C'est essentiellement une forêt qui est constituée de chênes, de hêtres,
Donc c'est une forêt qui se trouve vraiment en sortie de la ville.
C'est la ceinture verte de la ville d'Autun. Donc elle est essentielle pour la ville, parce qu'il y a beaucoup de chemins de randonnée, c'est le lieu où les écoles font des sorties. En plus, il y a même du patrimoine archéologique, il y a encore des vestiges gallo-romains, puisqu'il y a des captages. Donc c'est toute une richesse qui était essentielle pour la ville d'Autun. Il fallait absolument qu'elle soit maîtrisée, on ne pouvait pas laisser partir ça et que ce soit rasé et planté en résineux.
Donc promenons-nous dans les bois, oui. J'ai envie de vous dire. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire, en même temps qu'on se promène, par exemple, là, quels sont les... Bon, on a l'impression d'une forêt un petit peu sauvage, avec tout un tas de branchages.
Cette partie était une zone qui était plus ou moins en friche, où on laisse une régénération naturelle se mettre en place, avec quelques fruitiers, des arbres assez intéressants au niveau de la biodiversité, parce que... On a planté, c'est le seul endroit hein, sur nos 300 hectares où on a fait quelques plantations pour voir un petit peu, pour dynamiser un peu la régénération. Et on s'aperçoit que ce qui vient naturellement progresse plus vite.
Et ce qui vient naturellement, c'est quel type d'arbre ?
Alors, si vous voulez, ça vient par en succession. On commence toujours par du noisetier, par du sorbier. Et puis, tout doucement, alors ça met un certain temps, hein, ça met 15-20 ans, arrivent des arbres plus nobles, du chêne, du hêtre. On va rentrer un peu plus loin, vous verrez, on enlève un arbre et à la place, la régénération démarre très rapidement du fait qu'on lui amène de la lumière, elle s'implante et c'est l'avenir de la forêt. Alors ça met très longtemps. Après, il faut accompagner cette régénération, il faut sélectionner les pieds. Vous voyez là, c'est relativement dense. Il va falloir que quelqu'un passe et dise, bah tiens, le hêtre, il va très bien, là on va le laisser monter. Par contre, le petit résineux qui est à côté, on va l'enlever. Là-bas, le petit résineux, il est tout seul. Bon, on va peut-être plutôt favoriser celui-ci. Donc voilà, il y aura un travail de sélection qui va effectivement être important et essentiel pour l'avenir. Hein. Et là, c'est une gestion, effectivement, sur 150 ans. Hein. Il faut penser sur effectivement du très long terme. On n'est pas à dire il faut que dans 5 ans, elle me rapporte X% de mon investissement initial. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Ce qu'on veut dans nos forêts, c'est préserver les différentes fonctions de la forêt. Il n'y a pas que la fonction production. La fonction production, je dirais, elle n'est que la résultante de toute la sylviculture qu'on met en place. La fonction première, c'est améliorer la biodiversité. Faire qu'on ait un maximum de peuplement de toutes les tailles et de différentes variétés. Pourquoi ? Pour préserver aussi le sol et préserver l'eau. Je vous ai dit tout à l'heure que sur ces parcelles, il y a beaucoup de captages. C'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas valorisé dans la gestion forestière. Le propriétaire qui a des captages, on lui paye pas. Un captage, c'est le lieu où on vient chercher l'eau, c'est-à-dire c'est dans le sol, on met des drains, des nappes phréatiques, voilà. On vient avec des tuyaux récupérer l'eau dans des sources.
Et donc la forêt est un super filtre.
C'est un filtre fantastique, c'est une réserve et un filtre. Et si on n'a pas ce filtre, ben notre eau est de moins bonne qualité, forcément.
Il faut rappeler que le Morvan a fourni le bois de Paris pendant des décennies, et cette industrie a appauvri les sols du Morvan, qui sont déjà des sols fragiles parce qu'ils se sont développés sur un massif granitique qui est plutôt acide. Et de ce fait, si en plus on fait de la monoculture de résineux comme on en a fait sur des énormes surfaces dans le Morvan, ces sols vont encore plus se fragiliser. Et donc c'est vrai qu'après, des engrais deviennent nécessaires, les eaux deviennent polluées, et voilà, tout le système qui fonctionnait de façon naturelle et qui était utile à l'être humain, mais aussi aux bêtes, pour l'élevage, etc., eh bien, ce système écologique est perdu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très grave, qu'il faudrait des décennies, voire des siècles, pour le reconstituer.
Sauvegarder les feuillus ou exploiter les résineux. Dans le Morvan, ces deux logiques s'affrontent. La CFBL est la coopérative forestière qui gère la plupart des forêts privées de la région pour le compte de propriétaires particuliers à qui elle propose souvent de planter des résineux.
Donc Richard Lachaise, je suis responsable d'une agence CFBL et je suis surtout chargé de la communication pour la coopérative. La filière forêt-bois est une des toutes premières filières économiques dans notre pays, puisqu'elle emploie 400 000 personnes. En plus, c'est une filière qui est en devenir, puisqu'on a en France une ressource qui est très importante. La France est le premier pays d'Europe pour son stock de bois sur pied. Contrairement à des idées reçues, Les forêts françaises sont plutôt en retrait en ce qui concerne la récolte par rapport à la production. On ne récolte chaque année que 55% de la production biologique. Et c'est ce qui explique qu'on ait un stock aussi important. Donc il y a possibilité, tout en maintenant une gestion durable, de récolter plus de bois dans nos forêts françaises et donc de créer beaucoup d'emplois. Et ça, les élus en ont bien pris conscience en décrétant la forêt filière bois, enfin la filière filière bois, comme une première filière française, une filière d'avenir pour développer l'économie du pays.
Pendant longtemps, on n'a pas eu d'avis sur la gestion de la forêt française. Enfin, elle était gérée par des acteurs tels que vous, voilà. Et puis, depuis quelques mois, années, il y a alors soit des films, soit des groupements citoyens qui remettent en cause la façon dont est gérée ou récoltée une partie de la forêt française. À quoi c'est dû, à votre avis ?
Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Bon, d'une part, ça nous fait plaisir de voir que les Français s'intéressent à la forêt. Ça, c'est peut-être pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de néo-ruraux qui découvrent des choses qui peuvent se passer dans nos campagnes. Et on n'avait pas ça lorsque la plupart des habitants étaient à la campagne et savaient ce que c'était que de récolter du bois, savaient ce que c'était que de l'élevage, etc. Donc on a effectivement des mouvements et des communications qui proviennent de ces gens-là qui comprennent pas forcément ce qui se passe. Et on se dit que nous, forestiers, on doit communiquer. C'est vrai qu'on est passionné par notre métier. On devrait passionner davantage cette passion. Et c'est bien que vous nous en donniez l'occasion. Parce que on fait un métier noble de gérer un environnement aussi passionnant que la forêt. Et produire du bois, c'est vraiment un travail de très longue haleine.
Et alors, par ailleurs, est-ce que votre métier a connu des évolutions alors liées à une conscience écologique plus affûtée dans le public ou liées aussi à d'autres moyens, on parlait des drones aussi, ou d'engins différents? Est-ce qu'il y a une évolution récente là, dans vos métiers?
Oui, nos métiers évoluent. Bon, il y a eu d'abord des évolutions orientées vers la mécanisation, comme dans tous les milieux. Et aujourd'hui, bon, la mécanisation est bien présente. Et l'évolution, aujourd'hui, elle est plus de prendre en compte des questions environnementales. Donc, la mécanisation est toujours là. Mais aujourd'hui, on va chercher à avoir des machines qui aient le moins d'impact possible sur les terrains. On va chercher à développer des techniques qui soient plus vertueuses. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de mouvements sociétaux nous amènent à améliorer aussi nos techniques par rapport à ce qui pouvait se pratiquer il y a 30 ou 40 ans.
Et alors, il y a une problématique qui est plus, on va dire, locale. C'est celle de la plantation de résineux au milieu des feuillus pour, alors, les détracteurs disent c'est plus simple de cultiver du Douglas, ça se plante en ligne, mais alors ça éventuellement appauvrit les sols, pompe beaucoup d'eau, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Le forestier est quelqu'un qui fait avec la nature. Pour un arbre, il est important d'être dans une bonne station. Lorsque l'on est dans une montagne, c'est pas une bonne station pour certaines espèces d'arbres. Par exemple, nous sommes dans le Morvan et c'est une région qui était couverte de chênes, mais le chêne n'est pas dans sa station lorsqu'il est dans le Morvan la plupart du temps. Dès qu'on est sur des collines, sur des montagnes, avec des terrains superficiels, le chêne n'est pas au bon endroit. Il peut produire du bois de chauffage, mais aujourd'hui, la société a plutôt besoin de bois pour la construction. Et c'est ce qui a amené effectivement une partie des terrains à être transformés pour produire du Douglas. Et le Douglas est parfaitement à son aise sur ces terrains-là. Donc on cherche à avoir des arbres qui soient à leur aise sur les terrains où on les fait pousser. Il y a un peu plus de 100 ans, le Morvan servait à approvisionner l'industrie du bassin parisien avec des produits d'assez faible valeur aujourd'hui, ou très faible valeur, puisqu'aujourd'hui c'est le bois de chauffage qui vaut, mettons, 5, alors que lorsqu'on produit du bois qui va pouvoir faire des charpentes ou des planches de terrasse, ça vaut plutôt 50 ou 60.
Un bois de Douglas exploité en première transformation, comme on dit dans une scierie toute proche, où nous emmène Richard Lachaise. Cette scierie fabrique des panneaux de bois à destination notamment des Pays-Bas.
Ici, donc, on est dans une scierie que l'on a poussée à s'installer aux portes du Morvan, dans la mesure où on voulait valoriser les produits des propriétaires forestiers sur place.
Donc, vous disiez, elle travaille exclusivement du Douglas ?
Là, cette scierie travaille uniquement du Douglas, effectivement, pour faire des produits de charpente et des produits de bardage, des produits de terrasse.
Et alors, en termes de volume, il y a combien de mètres cubes qui rentrent par jour ?
Alors, actuellement, c'est une scierie qui doit rentrer 3 camions par jour. Donc, on est à environ 100 mètres cubes par jour qui viennent des forêts alentour dans un rayon de 50 km.
Ça veut dire qu'il y a de la récolte régulière, en fait ?
Oui, bien sûr. On est toujours impressionné quand on voit un parc de bois comme ici. Mais il y a énormément de forêts tout autour. Et donc, ça, c'est qu'une toute petite partie de la production forestière des environs. Donc là, les billons arrivent pour être à l'optimum. Généralement, les camions déchargent directement sur les decks. Là, ce qu'on voit, c'est un peu de stock tampon. Les bois sont ensuite écorcés dans la machine qu'on voit en face de nous. À ce moment-là, ils sont cubés, ce qui permet de donner la quantité pour payer tous les opérateurs et surtout le propriétaire. Et ensuite, une fois qu'ils ont été cubés, écorcés, ils rentrent à l'intérieur du bâtiment pour être transformés, donc sciés, pour faire des planches. Aujourd'hui, on alerte les propriétaires sur le fait qu'il y a un risque à laisser pousser les bois trop longtemps. Parce que lorsqu'ils sont trop gros, ils sont plus difficilement commercialisables dans la mesure où les outils de transformation ne sont pas adaptés pour des trop gros bois. Et ça coûte beaucoup plus cher à transformer des gros bois qu'à conserver des bois de taille moyenne. Alors justement, on cherche des solutions parce que même si on alerte les propriétaires, on sait que de toute façon, il y aura une production de gros bois. Et sur cette scierie, il est en train de s'installer une deuxième chaîne pour transformer les gros bois, mais ce sera moins bien payé que les bois moyens.
Dans le nord-est de la France, la forêt est très présente. Elle est aussi moins privée, même si certaines grandes familles ont toujours possédé des massifs imposants. Nous allons dans l'un d'eux, dans la forêt de Dambach, près de la frontière allemande, dans ce massif des Vosges du Nord, planté dès le XVIIe siècle et dont le bois servait à alimenter les forges. Ici, la famille de Pimodan possède 4500 hectares de forêt mélangée, résineux et feuillue, qu'elle fait gérer par ProSilva. ProSilva, c'est cette association de sylviculteurs qui promeut une gestion de la forêt dite irrégulière, plus proche de la nature et du cycle naturel des arbres. Francis Hoffmann, ancien garde forestier, nous emmène assister à un martelage.
Alors nous sommes là sur un versant nord avec une majorité de feuillus, c'est-à-dire du hêtre, avec un léger mélange de pin sylvestre qu'on voit, mais plutôt sur les versants sud par contre. Et donc on est sur un versant nord froid où le hêtre est à sa place.
Et alors l'opération qui se fait en ce moment là, les messieurs qu'on a vus, qu'est-ce qu'ils font exactement ?
Alors eux sont en train de faire du martelage, donc ils préparent la parcelle en coupe, ils marquent les arbres qui sont censés être récoltés ou éliminés, enfin qui vont être coupés en tout cas, pour différentes raisons. Et donc là ils sont en train de les marquer et ça sera l'hiver prochain que les bûcherons viendront exploiter ces bois-là.
Donc j'ai vu qu'ils n'ont pas un gros attirail, mais enfin ils ont quelques outils, c'est quoi ?
Les outils ne sont pas nombreux du tout, c'est simplement un compas qu'on appelle un bastringue qui permet de mesurer le diamètre des arbres qu'on va couper et puis un marteau qui permet de marquer l'arbre qu'on va couper. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et une planchette avec un papier et un crayon où M. de Turckheim pointe tous les arbres pour faire l'assiette de découpe, donc pour pas avoir les prévisions pour l'année prochaine, de savoir la répartition des diamètres, des qualités, etc. pour la vente. C'est soit de la récolte où effectivement on sort un bel arbre qui est arrivé à maturité, qui a fait son temps et qu'on va récolter pour mettre du beau bois à disposition des industries nobles. Et puis il y a d'autres bois qui gênent de beau dans leurs accroissements ou de la jeunesse aussi par exemple. Il y a des bois qui sont arrivés à terme en niveau sanitaire, qui ont des problèmes de santé, qu'il faut récolter pour justement pour faire la place à du renouvellement et de la jeunesse.
Et les plus beaux arbres, c'est ceux qui sont bien droits, qui n'ont pas trop de branches. Enfin, comment on peut définir un bel arbre ?
Le bel arbre, c'est dans un bille de pied qui produit le plus beau bois, la plus belle qualité. Mais c'est péjoratif tout ça, un bel arbre il peut être très moche. Alors on essaie toujours quand même d'aider le bel arbre qui a un potentiel économique qui est tout à fait indispensable à notre vie ou à la survie de la forêt, quoi. Donc c'est eux qui produisent l'argent qui permet de vivre. Et donc c'est ces arbres-là qu'on privilégie dans leur croissance pour les amener à être le plus beau possible.
Celui qui conduit l'exploitation de cette forêt, c'est Évrard de Turckheim, président de ProSylva en France. Celui-là, il a été marqué. Qu'est-ce qui a conduit à son marquage ?
Alors, il est pas de belle conformité. Il est tordu, il est branchu,
a des branches assez bas ?
Il est tordu à la base, donc tout de suite à 1 mètre. Il a des branches à partir de 2 mètres, des gros moignons, des grosses branches, des vieilles branches à 3 mètres, 4 mètres. Donc on n'arrivera pas à faire du bois d'œuvre de qualité, de longueur suffisante pour l'industrie. Hein, mais c'est vraiment nos considérations sur les premiers 7 mètres. C'est là où il y a la valeur du bois.
Alors que celui-là ?
Celui-là est plus allongé. Alors il y a une branche à 4 mètres, mais au-dessus, en dessous, il y a une longueur de billon qui est valable.
Hein, donc le billon, c'est
C'est une petite portion d'agrumes.
Feuillard 65.
Donc feuillard 65. Donc ça c'est un gros hêtre. 65, ça commence déjà à être un diamètre respectable et respecté. Il a aussi là quelques grosses branches sèches. Hein, donc c'est un bel arbre ça, Simon.
Ouais.
Hein, on peut garder. Voilà, donc il y a parfois des arbres qui n'ont plus de valeur économique. Qui n'ont plus valeur économique. Donc on met un R dessus qui veut dire réserve. Donc c'est un arbre tout simplement qu'on abandonne à la nature, à la diversité. Donc il y en a régulièrement dans les parcelles. Alors il ne faut pas qu'il soit à côté de chemin, il ne faut pas qu'il soit dangereux. Vous voyez, il y a plein de grosses branches, de gros trous.
Feuillard 65.
Feuillard 65. Et vous voyez, on a des magnifiques crêtes rocheuses. Donc là-bas, la tête du chien, c'est des sites emblématiques de la reproduction du faucon pèlerin. Donc on intègre aussi dans la gestion, dans notre réflexion, la préservation de ces sites remarquables. Donc on a un bon partenariat avec le parc régional des Vosges du Nord, qui vient nous donner quelques indications, quelques remarques sur les richesses qui sont parmi nous.
Alors, il y a la piste qui arrive là quelque part. Vous l'avez la piste là ?
Il faut qu'on descende là, sur le bas.
L'intégralité de la régénération que vous voyez là est de la régénération naturelle. Alors, donc, c'est un mélange de hêtres, c'est un mélange de pins, c'est un mélange de quelques épicéas. Mais tout ça c'est naturel, donc c'est un cadeau de la nature. Notre seul travail c'est de la prendre en considération. C'est-à-dire qu'on fait attention au moment de l'exploitation à ne pas tout casser. Hein. Donc on essaye d'organiser, de sensibiliser les bûcherons. Ça coûte un tout petit peu plus cher à l'exploitation, c'est vrai, mais on a des économies d'échelle absolument énormes sur le fait qu'on n'a pas besoin de planter, de dégager.
Alors, est-ce que du fait que dans la région, il y a beaucoup de forêts, que ce soit une filière bien installée, la forêt et le bois, ça peut expliquer que ici plus qu'ailleurs, ProSilva se soit développé? Ou est-ce que c'est du fait de la proximité avec l'Allemagne, d'où est originaire le mouvement?
Je pense qu'il y a une histoire du traitement des forêts, de la sylviculture, qui est fortement ancrée ici, dans le quart nord-est. Donc, forcément, il y a peut-être un recul sur les différentes pratiques qui est peut-être un petit peu plus importante. Certainement, la proximité avec l'Allemagne, avec la Suisse, a joué en faveur de cette approche, de cette connaissance, de cette familiarisation du traitement irrégulier. Alors maintenant, le train est en marche, si je puis dire. Donc, il y a de multiples expériences ici et là, à travers la France, à travers l'Europe. On a même des pays lointains qui frappent à la porte. Les Japonais, j'étais l'année dernière aux USA, on a vu des magnifiques expériences qui vont dans ce sens. Un petit faucon qui est là, décollé. On a des réponses très, très, très concrètes et très perspicaces. Les résultats sont là, on s'acharne à démontrer ce qu'on est capable de faire. Alors certains, on n'est pas détenteur de la seule et unique vérité, ça je dis toujours. Même si on répond de façon extrêmement pertinente à beaucoup de questions, je suis persuadé que les idées transpirent. ProSilva a vocation à disparaître. Quand tout le monde fera du ProSilva, les choses progressent, c'est l'important.
Et les musiques qui ont accompagné ce reportage ont été réalisées avec des arbres. Vous comprendrez mieux et vous trouverez les références de ces morceaux sur le site franceculture.fr. La forêt, une ressource à sauvegarder. Un reportage d'Anne-Laure Chouin avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les invités de Grand Reportage sont Philippe Berger de l'Office National des Forêts et Jean-Luc Perron, économiste forestier. Alors cette sylviculture douce, entre guillemets, défendue par ProSilva, est actuellement minoritaire dans les forêts privées. Est-ce qu'elle se développe actuellement, Jean-Luc Perron ?
Merci pour ce reportage et aussi pour nous avoir montré énormément d'excellents professionnels, même s'ils ne pratiquent pas les mêmes systèmes. La sylviculture qui douce peut être une bonne sylviculture, effectivement, ce n'est pas la seule en vogue. Et moi, je pense qu'il faut faire une place, en fait, à toutes les sylvicultures qui ont toutes des avantages et des inconvénients. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un bon professionnel à la base. C'est-à-dire, faire une sylviculture donnée par un professionnel qui ne la sent pas peut conduire, je pense, à un certain nombre d'erreurs.
Mais alors, la sylviculture telle qu'on la pratique, on l'entendait au début du reportage dans les Landes, où là, on est sur de la monoculture, on peut dire presque industrielle, même si c'est à l'échelle des arbres, c'est moins rapide, on va dire, que pour un champ de blé. Mais cette sylviculture, quel avantage elle a, par exemple? On en voit les défauts, on en voit moins les avantages.
Mais je pense que la sylviculture, il faut la juger à l'aune de multiples critères. On a d'ailleurs des critères de gestion durable des forêts qui peuvent être économiques, écologiques, sociaux. Et donc, il y a des sylvicultures qui sont plus proches d'une de ces dimensions-là ou plus entre ces dimensions-là. Et donc, il faut les évaluer de façon multicritère. Donc, ce qui explique certaines sylvicultures, ça peut être des raisons économiques. Donc, par exemple, il y avait des cas de plantation dans le reportage. En France, 13% de la forêt est occupé par des plantations, ou à peu près, et ça produit de l'ordre de 30% du bois qui est prélevé. Donc ça a une vertu d'alimentation des secteurs économiques et aussi des consommateurs qui achètent des tables, des charpentes, des terrasses, etc.
Et à l'ONF, Philippe Berger, est-ce qu'il y a un modèle de forêt qui est défendu ?
Depuis quelques années, je dirais que la sylviculture irrégulière est remise un peu en vogue à l'Office national des forêts. Pendant très longtemps, il n'y avait qu'un seul dogme, c'était celui de la futaie régulière. C'était l'exemple des grandes forêts domaniales qu'on poussait en fait à développer auprès des forêts communales, entre autres. Très souvent, les forestiers amenaient les maires, les conseils municipaux pour faire voir ce qui se passait en forêt domaniale, qui était gérée en futaie régulière. Aujourd'hui, le dogme a pris, je dirais, un peu de plomb dans l'aile et la futaie irrégulière commence un peu à se développer. Ensuite, c'est vrai que ça reste quand même encore marginal, me semble-t-il, par rapport à la futaie régulière en forêt publique.
Et alors, qu'est-ce qui a poussé à ce qu'elle se développe? C'est la pression, on va dire, du public? C'est toutes les thématiques écologiques qui arrivent? Qu'est-ce qui fait que ça se développe un peu, cette futaie irrégulière? On peut peut-être juste rappeler pour l'auditeur ce que c'est par rapport à une futaie régulière?
La futaie régulière, c'est des parcelles forestières où on trouve des arbres qui, alors qu'il peut y avoir plusieurs types d'arbres, mais des arbres à peu près tous du même âge. Alors que la futaie irrégulière, on va trouver des arbres de différents âges.
D'accord.
De l'adulte au semi, etc.
Et donc, qu'est-ce qui fait que l'ONF a remis un peu en cause l'ancien dogme?
Je dirais, alors c'est peut-être pas très modeste, mais je pense que c'est entre autres une organisation syndicale qui est la mienne, le SNUPFEN Solidaire, qui à un moment donné a poussé, il y a eu des débats très âpres au sein de l'ONF, pour pousser justement à ce qu'il y ait des débats et en tout cas qu'on puisse commencer à mettre de la futaie irrégulière. Et il y a de très nombreux forestiers de l'ONF qui sont aussi adhérents de ProSylva par exemple.
Jean-Luc Perron, vous disiez que chaque type de sylviculture a des avantages et des inconvénients. Par exemple, la monoculture, elle est intéressante en termes de rentabilité. Elle peut être, en revanche, un peu risquée. Dans certains cas, je pense à des maladies qui peuvent attaquer certains types d'arbres.
La rentabilité, c'est pas forcément toujours quelque chose qui est aisé à définir. Et il y a des rentabilités à court terme et des rentabilités à long terme. Donc, personnellement, je ne suis pas convaincu que écologie et économie soient toujours aussi opposées qu'on voudrait bien le dire. Donc, souvent, on regarde qu'une partie des choses. Moi, j'ai parlé de multicritères, regarder divers types de critères. Souvent, on regarde les choses d'une façon un peu trop simpliste. Et par exemple, dans votre reportage, vous avez un professionnel qui effectivement a fait allusion au taux interne de rentabilité. Et l'économiste que je suis ne considère pas que c'est la bonne mesure de la rentabilité pour une culture forestière. Donc, alors c'est pas très grave et je veux pas non plus m'ériger en donneur de leçons, mais le critère n'est pas le bon.
L'objectif, il me semble, c'est justement d'essayer d'allier rentabilité et respect, évidemment, de l'environnement, avec cette difficulté parfois à trouver un bon équilibre.
Et ben c'est pour ça que la plupart des gens parlaient d'un métier passionnant. C'est parce que, justement, il y a une richesse dans l'exercice de ce métier. Tout le monde pense que la forêt pousse toute seule et qu'effectivement, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Et
en ce fait, qui est dit à un moment dans le reportage.
Oui, c'est dit, mais bon, on sent que c'est quelqu'un qui a une expérience très très forte qui le dit et peut-être néglige-t-il le bagage nécessaire pour faire ça, mais en fait, voilà, c'est relativement compliqué et il faut avoir une certaine science du compromis. Et parfois, on a tendance, quand on en parle, au contraire, à opposer des extrêmes qui sont pas toujours très présents dans la réalité, qui est plutôt grise que noire ou blanche.
Philippe Berger, vous vouliez ajouter un mot?
Oui, parce que le risque avec cette approche, c'est qu'on arrive à spécialiser en fait l'espace. On va dire, voilà, il y a des forêts productives, il y a des forêts qui sont là pour l'environnement, il y a des forêts là qui sont pour accueillir du public. Or, à distinguer, alors c'est les trois phases principales, les trois rôles qu'on donne à la forêt principalement, sauf que si on les sépare ou si on les scinde de façon trop abrupte, ça n'a plus aucun sens. Et nous, ce qu'on prône, c'est que justement les forestiers soient en capacité d'allier ces trois rôles de la forêt, assignés à la forêt. Et économiquement, là je partage tout à fait ce qu'a dit M. Perron, c'est-à-dire que si on oppose écologie et économie, ben, finalement l'économie, elle va se casser la gueule, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on arrive sur ce genre de choses à un moment donné. C'est-à-dire que quand on regarde sur certaines plantations de Douglas, où on est à la deuxième ou troisième régénération, ou quand on commence à être obligé de mettre des engrais pour que les arbres poussent, on peut se poser des questions.
Alors, est-ce que les forestiers d'aujourd'hui, qui sortent des écoles forestières ou d'autres types de formations, sont, est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas une nécessité d'avoir justement une formation très poussée, alors qu'elle soit biologique, économique, enfin, est-ce qu'il y a aussi pas un enjeu qui est celle de la formation des nouveaux forestiers ?
la formation des nouveaux et des anciens.
Et des anciens, formation continue, bien sûr.
Et c'est ça qui est un peu dramatique. Moi, je vois par rapport à l'Office national des forêts, où la direction de l'ONF a supprimé le centre de formation, alors que ce qu'on souhaitait, nous, c'est que l'Office national des forêts, la France, d'une manière générale, lance un grand programme de formation forestière et soit à la tête. On a la chance en France d'avoir des grandes forêts ultramarines avec les départements d'outre-mer. On a une capacité justement à innover et à chercher, et on est en train de fermer le centre de formation des forestiers en France, quoi, pour l'ONF, la forêt publique. Donc en gros, c'est le message qu'a lancé la direction de l'ONF à cette époque-là, c'est de dire essayons l'ignorance.
Jean-Luc Perron, de quel profil la forêt a-t-elle besoin aujourd'hui ?
Eh bien, elle a besoin de personnes qui ont un bagage intellectuel très large et qui soient à la fois capables d'étudier un sol, d'apprécier les maladies des arbres, de voir comment pousse un arbre, de pouvoir vendre le bois, de pouvoir discuter avec un promeneur, de pouvoir contrôler, organiser la chasse. Donc, il y a un tronc commun qui est assez indispensable. Et après, eh bien, il faut aussi développer de façon un peu plus approfondie certaines disciplines de façon optionnelle pour apporter un plus. Donc il y a des forestiers qui seront plus médecins, j'allais dire, que d'autres. Et il y a en France des correspondants observateurs du département de la santé des forêts, par exemple, qui ont une partie de leur temps consacrée à des opérations de ce type-là. Il y a d'autres qui connaîtront mieux le marché des bois. Donc il faut des profils assez variés, avec un tronc commun bien déterminé et assez généraliste.
Et puis il faut être capable de beaucoup d'anticipation, puisqu'en fait, on doit pouvoir se projeter dans le moyen, dans le long terme, tout en étant aussi dans le présent.
Et c'est ce qui fait que parfois les forestiers sont incompris. Parce qu'ils raisonnent effectivement à une échéance qui n'est pas celle de tout le monde et qui est néanmoins remise un peu en question par le changement climatique et d'autres changements que la forêt subit et auxquels elle doit s'adapter. Donc ça complique un peu la chose aussi. Cette anticipation est encore plus compliquée parce qu'elle est dans l'incertain.
Anne Lanchouin.
Et alors justement, il y a tous ces enjeux-là et notamment le changement climatique, et il y a beaucoup de forestiers qui m'ont dit on est quand même un peu les oubliés du ministère de l'Agriculture. La forêt, c'est pas quelque chose qui est considéré par notre tutelle et par le gouvernement en général comme quelque chose d'important. Est-ce que vous diriez ça? Alors je m'adresse à l'un et à l'autre. Est-ce qu'aujourd'hui la forêt française, publique et privée, est correctement gérée, durablement gérée? Est-ce qu'elle arrive à allier dans son ensemble le souci économique et puis la biodiversité? On a perdu tellement d'oiseaux et d'insectes, enfin les rapports s'accumulent, et puis le réchauffement climatique qui arrive, est-ce que la forêt doit s'adapter aussi? Comment? C'est très large.
Je dirais qu'au niveau du discours, on est très bien. En France, on est très bien, il faut préserver la biodiversité, il faut préserver les forêts, mais derrière, les moyens ne suivent pas, tant au niveau de la forêt privée que de la forêt publique d'ailleurs. Donc à un moment donné, c'est je parle particulièrement de la forêt publique, mais on a un établissement, l'Office national des forêts, qui gère 25% de la forêt française et qui est en déficit chronique. L'État lui apporte une subvention d'équilibre qu'on appelle le versement compensateur de 140 millions d'euros. Mais à côté de ça, en parallèle, l'État va prendre 105 millions d'euros pour les pensions de ses personnels fonctionnaires. Donc à un moment donné, l'État donne d'une main et reprend de l'autre. Donc on peut dire des grandes choses sur l'ONF, tout ce qu'il a apporté également. Mais au-delà du discours, quels sont les moyens que l'État donne à la gestion de la forêt française, publique et privée? Et aujourd'hui, on est bien en dessous de ce qu'on pourrait être en droit d'attendre, justement au vu des enjeux qui sont à venir, entre autres sur le changement climatique.
Jean-Luc Perron, vous partagez ce constat ?
Mais en fait, je pense que la forêt est au centre de beaucoup de stratégies, et donc notamment au niveau politique, donc de stratégies sur l'adaptation au changement climatique, sur la politique énergétique, sur donc l'atténuation du changement climatique, sur la biodiversité, sur la réduction des émissions de carbone, et sur la politique forestière et la richesse nationale qui peut aussi aller derrière. Mais pour moi, le problème, c'est que la forêt, suivant l'angle sous lequel on le voit, elle est très importante pour la biodiversité, très importante pour le changement climatique, très importante pour la bioéconomie. Ça devrait en faire quelque chose qui devrait être une priorité encore plus forte au niveau français et international. Et ce n'est pas le cas parce qu'on n'arrive pas à la considérer dans sa globalité, en fait.
Alors, la forêt française, elle subit aussi les effets du réchauffement climatique, avec plus de tempêtes, avec des risques d'incendie. Quelle est la meilleure façon de protéger les forêts de ces risques-là ?
Alors, il y a diverses façons, puisque la forêt a aussi la possibilité de lutter directement contre ces risques et pas forcément uniquement d'en subir les effets. Alors, il est évident que si elle subit d'abord les effets, elle aura plus de mal à lutter contre eux. Mais donc, c'est une caractéristique forte de la forêt d'être vraiment sur les deux volets. Donc, en étendant des forêts, en ayant des forêts quand même productives et surtout exploitées, on peut aussi économiser de l'énergie, pas uniquement en le brûlant, comme on le croit trop souvent, mais en utilisant du bois dans des comme sous forme de matériaux, dans des charpentes, etc. Parce que ce faisant, on économise de l'énergie par rapport à des matériaux concurrents qui en consomment beaucoup plus pour leur transformation. Et ensuite, il faut surtout avoir une forêt diversifiée, en bonne santé, surveillée. Et après, ça n'est pas, on n'a pas une garantie de succès, il faut bien dire, avec ça, parce que vis-à-vis du changement climatique, l'incertitude est grande, suivant les scénarios qui se profilent devant nous, suivant qu'on arrivera à tenir l'accord de Paris, j'allais dire, ou pas. Et on voit bien les difficultés qu'on a à le faire. Et ça va avoir des conséquences très fortes sur la forêt.
Philippe Berger. À l'ONF, oui, pardon, Aurélie, c'est l'adaptation de la forêt au changement climatique, c'est quelque chose qui est regardé de près.
Écoutez, oui, c'est forcément pour tous les forestiers, aujourd'hui, c'est un problème qu'on est obligé de prendre en compte, hein, automatiquement, avec beaucoup d'incertitudes, d'où l'importance aussi, je dirais, de la recherche pour mieux comprendre. Et comme disait M. Perron tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir des forestiers, enfin c'est Raoul Monténégro qui disait ça, qui est prix Nobel alternatif, qui disait des forestiers qui sont plutôt écosystémiers et qui savent lire la forêt. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, et une de nos craintes, c'est d'avoir en fait finalement des solutions un peu radicales comme on peut de temps en temps en avoir, c'est-à-dire passer par justement une éradication de certaines essences, alors que peut-être que certaines, parmi ces essences-là, il y a peut-être des espèces qui vont peut-être résister, mais là il faut être en capacité de l'observer.
La recherche, ça passe aussi par des croisements génétiques par exemple ?
La recherche passe seulement par des croisements génétiques, mais on souhaite absolument pas voir ça en forêt.
La génétique, c'est aussi une façon d'étudier les populations, en fait, et leur diversité, et la façon dont elles vont réagir, justement, au changement climatique. Et dans le problème des essences, et par rapport au changement climatique, ce qu'il faut bien voir, c'est que les essences qui actuellement peuvent pousser à un endroit donné seront forcément moins nombreuses dans le futur, parce qu'elles vont devoir à la fois supporter les conditions actuelles et les conditions futures. Et donc, il faut garder une gamme possible suffisante pour s'en sortir.
Oui, et j'ai été un peu rapide parce que là, je m'amalgamais avec les organismes génétiquement modifiés. Et je suis pas allé jusqu'à la génétique, excusez-moi.
on entend dans le reportage, à un moment, dans une scierie, un coopérateur qui explique, qui pousse les propriétaires à pas avoir de trop gros bois. Alors on parle de la sylviculture, on parle moins de la filière aval, qui est celle du bois. Est-ce qu'en France, il n'y a pas un mouvement qui fait qu'on essaye d'adapter la ressource, le bois, à l'outil disponible, et à savoir on n'a pas tous les outils disponibles, et pas l'inverse, on n'adapte pas nos outils à la ressource disponible.
Oui, c'est un problème important et souvent débattu en foresterie. Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, et une des personnes dans le reportage l'a dit, on n'exploite qu'une partie de l'accroissement biologique des arbres, donc que la moitié, ce qui veut dire que le volume de bois en forêt ne cesse d'augmenter globalement. Alors il augmente parce que les surfaces augmentent, ça on ne le sait pas forcément toujours, mais elles augmentent encore de l'ordre de 100 000 hectares par an quand même, ce qui est considérable. 100 000 hectares, c'est le sixième d'un département. Hein. Et en plus, sur les surfaces déjà forestières, le volume s'accroît et on n'exploite pas tout ce qui s'accroît. Alors pour partie, il y a des jeunes forêts, donc c'est normal de ne pas exploiter, mais pour partie, on devrait exploiter plus. Donc si vous voulez, les arbres deviennent de plus en plus gros de toute façon. C'est-à-dire, on peut vous dire, il faudrait voulait récolter des arbres de plus en plus petits, c'est pas la tendance qu'on voit apparaître. Ça pourra se faire localement, mais pas du tout à l'échelle de la France. Donc il est urgent de pouvoir mieux utiliser les ressources que nous avons en France.
Alors là-dessus, Philippe Berger, vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord.
Écoutez, c'est pas du tout ce que... Oui, il y a un accroissement, mais on voit qu'avec l'inventaire forestier national, déjà, donc, qui est chargé de faire une estimation du volume qu'il y a sur les forêts françaises, dont déjà, ils ont changé leur système de protocole. On est passé de 106 millions de mètres cubes d'accroissement évalué par l'inventaire forestier à 86 millions. Donc voilà, il y avait déjà une erreur de 20 millions de mètres cubes d'évaluation. Ce qu'on voit, là on nie pas qu'il y a certains espaces où il y a du volume supplémentaire, mais après la question c'est est-ce qu'on peut les exploiter ? Parce que bon là, il y a des forêts qui se trouvent en montagne qui sont inexploitables, il y a des tas d'endroits où c'est inexploitable. Donc voilà, en fait ce qui se passe avec ce discours-là, c'était un peu le discours du Grenelle de l'environnement à l'époque, de dire exploiter plus pour mieux préserver la biodiversité, en préservant mieux la biodiversité. Sauf qu'est-ce qui se passe ? Ben finalement, on va taper plus, on va aller chercher, taper c'est le martelage, mm-hmm. C'est ce qu'on a entendu dans le reportage, en fait dans les forêts qui sont accessibles, donc dans les forêts de plaine. Et qui c'est qui est en capacité aujourd'hui de donner le maximum de bois à la filière, c'est l'Office National des Forêts qui est organisé, qui gère 25% de la forêt sur des forêts aménagées depuis très longtemps. Et donc finalement, c'est sur cet organisme-là qu'on va chercher, qu'on pousse à produire plus. Donc nous, ce qu'on constate quand même, et là c'est quand même quelque chose de très fort au niveau des aménagements forestiers aujourd'hui qui sont faits à l'Office National des Forêts, on récolte moins. Les forestiers sont en train de dire « attention, il faut qu'on baisse la récolte ».
Merci Philippe Berger, merci Jean-Luc Perron. La forêt, une ressource à sauvegarder. Le grand reportage de cette semaine était signé Anne-Laure Chouin, réalisation Annie Bro avec Ludovic Auger à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction avec des photos et des entretiens complémentaires sur franceculture.fr.